Bienvenue à ce podcast sur le monde du baseball. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Alain Juron, en compagnie de Marc Griffin. J'espère que vous allez bien. Mon cher Marc, bon, il n'y a aucun sport professionnel qui a recommencé. Et même si on n'a pas tant de nouvelles que ça, ce qu'on peut percevoir dans les bribes qu'on peut lire un peu à gauche et à droite et qu'on entend, c'est que le baseball se prépare pour, bon, une mini-saison. Quand ça va commencer, on ne sait pas. Mais je pense que ce n'est pas utopique de penser qu'on pourrait se préparer pour la fin juin. Peut-être dans les cas les plus optimistes, c'est le mois de juillet, là.
Oui, absolument, Alain. Tu sais, il y a eu plusieurs scénarios hein, d'envisager depuis en fait, 4 à 5 à 6 semaines de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Rappelle-toi, on parlait de l'Arizona à un moment donné. Là, on vient peut-être à trois divisions. Là, on a su mardi matin ou en fait lundi soir très tard que il y a des équipes qui se sont fait dire de se préparer pour le 1er juillet. Il n'y a personne qui sait vraiment, mais au moins, chose certaine, c'est qu'on se prépare. Et si on joue, ça va être à huis clos. Là, il s'agit de savoir, Alain, est-ce qu'on va refaire des divisions, est-ce qu'on va faire jouer des équipes par exemple, des équipes où il y a peut-être plus de cas, où on va les transférer ailleurs. Ça change de jour en jour, alors ça devient un peu plus difficile, mais je pense que la date du 1er juillet est celle en ce moment retenue par la plupart des équipes.
Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Et effectivement, on en a parlé lors d'un webcast précédent, Marc, et ça va peut-être accélérer les changements profonds qu'on voulait apporter dans le baseball majeur. Tu parlais effectivement du fait qu'on voulait peut-être regrouper des équipes géographiquement, peut-être, pas peut-être, mais voyager moins, ce qui est prescrit de toute façon dans la situation actuelle. Ça va peut-être accélérer là, les changements qu'on voulait apporter.
Ben, Alain, absolument. Et d'autres changements qui vont peut-être être à venir, Alain, c'est tout l'aspect financier du sport
Oui.
professionnel, donc évidemment le baseball. Mais là, si on joue à huis clos pendant une saison, ça ne veut pas dire qu'on va remplir les stades dès l'année prochaine. Alors, comment on va pouvoir repartager, si tu veux, ces espèces de revenus? Est-ce qu'on va avoir encore des écarts de salaire comme on a vu par le passé? Est-ce que c'est peut-être la réalité qui frappe en pleine face le sport professionnel, vraiment, à ce niveau-là, puis qu'on reprenne un peu, peut-être, tu sais, parce que tu regardes l'écart de salaire entre les meilleurs et les joueurs, je dirais pas les moins bons, là, mais les joueurs qui sont peut-être pas des super vedettes. Tu regardes le prix des billets, tu regardes l'accessibilité du sport professionnel, et je vais te dire une chose, j'ai un gros questionnement à faire présentement. Il va y avoir du baseball, il va y avoir du sport professionnel, assurément, mais je pense que ça va même encore plus loin, Alain, que peut-être de refaire des divisions ou peut-être avoir, je ne sais pas, le frappeur de choix pour toutes pour les deux ligues ou en fait former une seule ligue finalement et avoir, je ne sais pas moi, six divisions, former des conférences. Il y a plein de choses, mais je pense que ça peut, je suis pas mal convaincu que ça va aller plus loin que ça et que le sport en général va changer, là.
Je te pose la question directement, Marc, et tu m'amènes sur un terrain où on voulait aller de toute façon parce qu'il y a eu la divulgation un peu de la façon dont l'argent est partagé dans le baseball majeur sur le plan salarial et les revenus des propriétaires, un texte d'Associated Press sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais ce que tu me dis, dans le fond, c'est que la fameuse bulle sportive, là, disons là, qui n'a jamais arrêté de gonfler depuis le début des années 80, ça c'est avec l'avènement du câble. Est-ce que le coronavirus ou le COVID-19, dépendant de comment vous l'appelez, là, est-ce que cette situation-là est en train de mettre une petite aiguille dans cette bulle qui n'a pas arrêté de gonfler, là?
Écoute, tu regardes pas mal toutes les industries, à un moment donné, ont subi des contre-coups de peu importe les raisons derrière. Peut-être que, ben, malheureusement ou heureusement, c'est selon que cette situation que l'on vit présentement va faire en sorte que le sport va changer beaucoup et que un projet comme celui des Rays et des Expos, de partager deux villes, est peut-être moins fou qu'on pense maintenant, compte tenu des revenus. En tout cas, tu sais, ça va dépendre de tellement de choses, mais je pense. Que tous les propriétaires d'équipes professionnelles présentement, j'imagine, sont en train de planifier, de voir comment on peut traverser, passer au travers tout ça et qu'on puisse recommencer éventuellement sur peut-être des bases, je dirais pas plus solides, mais différentes qui vont aider justement à faire en sorte que le sport professionnel peut poursuivre, mais sans peut-être cette richesse qui est mal. Qui est mal
Distribuer.
partagé, là. Ouais, exact.
Oui. Mais Marc, je veux qu'on en parle parce qu'il y a eu un texte hier qui a été repris un peu partout qui a été initialement publié par Associated Press, l'agence de presse américaine. Et là, on parlait des salaires, on parlait du salaire moyen, des revenus des joueurs, des revenus des propriétaires. La donne a changé depuis 4 ans. Faire un résumé, la moyenne des salaires dans le baseball majeur n'a pas beaucoup bougé depuis 1997. Tu te rappelles, on en avait parlé, Marc, des propriétaires ou des dirigeants d'équipe. La donne a beaucoup changé, on est beaucoup plus professionnel qu'on l'était avant, on regarde plus où on met notre argent. Par contre, il y a une disparité de plus en plus grande à deux niveaux. Un, entre les joueurs, les meilleurs font de plus en plus d'argent alors que les laissés pour compte gagnent des salaires minimum, mais ça, il y en a de plus en plus. Certains disent, oui, on ajoute un joueur, mais ce joueur, ce 26e joueur-là, Marc, ne gagnera pas 40 millions par année, ça, on le sait. Et il y a une disparité entre les équipes. Ça, Marc, c'est un sujet sur lequel tu es revenu à quelques reprises, particulièrement du côté des joueurs. Toi, tu souhaiterais là, un meilleur partage de ces salaires-là entre les joueurs. Pas avoir un Mike Trout, par exemple, qui gagne 40 millions. Oui, c'est le meilleur joueur de baseball, mais qui a un coéquipier qui frappe derrière lui et qui va en gagner 700 000 parce que c'est sa deuxième année dans le baseball majeur.
Ouais, exactement. Mais je pense que les propriétaires ont longtemps, en fait, même encore aujourd'hui, là, tu contrôles finalement le joueur pour les 6 premières années de sa carrière qui sont, il faut le dire, Alain, les meilleures
Parmi
années.
les
T'sais, la
meilleurs.
première année, bon, ben voilà. Alors là, tu te retrouves après 6 ans, puis là, tu vois là, que les données nous prouvent qu'après 30 ans, ben, veux pas, même si c'est une forme physique exemplaire. Ben, il y a une baisse un peu au niveau de la puissance, puis une baisse au niveau de ci et de ça, ce qui fait que là, on ne veut plus donner les contrats de 5-6 ans à des joueurs autonomes qui deviennent justement joueurs autonomes à 30 ans. Alors là, de mon avis, tu peux pas avoir tout ça. On a commencé à voir, Alain, cette tendance-là depuis un an et demi. Rappelle-toi les contrats d'Acuna Junior, par exemple. Il y a des contrats
Ouais.
de jeunes joueurs qu'on donne, des Severino, par exemple, hein, des contrats un peu plus longs. Donc, on leur fait passer, quelques années, on leur fait éviter l'arbitrage un peu, puis je pense que c'est une voie intéressante, ça, pour les joueurs et pour les propriétaires éventuellement. C'est peut-être le début de quelque chose d'intéressant, mais effectivement, il va falloir trouver un moyen qu'on comble un peu ce niveau-là entre les deux.
Ouais.
Mais tu parlais aussi des équipes. Et ça, tu sais, moi, j'ai toujours apprécié le fait qu'il n'y a pas de plafond salarial au baseball, mais le partage de revenus est excellent. Sauf que une fois que tu as partagé ton pourcentage de revenus, ben on se comprend que le marché de New York, puis tu le compares à, je sais pas, le marché de Pittsburgh, tu comprendras qu'on a beau puiser tout ce qu'on veut, tu peux avoir les meilleurs experts marketing et de vente au monde à Pittsburgh, on ne réussira jamais à passer même proche d'atteindre ce que, par exemple, les Yankees ou les Dodgers peuvent avoir. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un rééquilibre? Parce que, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il va falloir aussi revenir, Alain, au fait que, tu sais, je regarde un Mookie Betts qui part de Boston. On parle de. Tu sais, ça serait le fun de revoir des joueurs qui peuvent passer grande majorité de leur carrière avec la même équipe, qu'on les identifie, qu'un partisan puisse dire, bon, ben, puisque ce soit un partisan des Pirates ou un partisan des Dodgers, hey, on va le garder, ce joueur-là, puis on va l'avoir pour les 8, 10 prochaines années, au lieu de dire, ben là, il devient joueur autonome dans 3 ans, c'est sûr qu'on va le perdre. Tu sais, à un moment donné, oui, ça fait partie du sport, mais je ne sais pas. Hein, peut-être que si on nivelle tout ça à des revenus qui se ressemblent un peu, je comprends que New York va toujours avoir un petit peu plus que Pittsburgh, mais qui va permettre à des franchises comme Pittsburgh ou Tampa Bay ou des franchises de la sorte de pouvoir quand même compétitionner au niveau salarial. On le fait au niveau créativité. Je pense que les Rays est l'exemple parfait. D'ailleurs, on voit que des équipes riches embauchent à peu près tout le monde des Rays en ce moment parce qu'on les trouve créatifs. Mais si on peut, tu sais, si on peut être un petit peu plus proche de la réalité pour toutes les équipes, il me semble que ça donnerait une meilleure parité. On pourrait espérer à chaque année de voir les Royals autant que les A's, que les, je sais pas moi, les Cards de Saint-Louis lutter pour la première place. Là, ça va vraiment dépendre de la qualité des gérants et de l'administration baseball derrière une équipe. Mais je trouve qu'on devrait se rapprocher un petit peu plus parce que l'écart devient un petit peu trop grand.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et le modèle, Marc, c'est celui de la NFL, dans le sens où les Packers de Green Bay, qui évoluent, on sait, dans probablement le plus petit marché nord-américain, ont les mêmes chances de gagner que les Giants de New York. on a les mêmes revenus ou à peu près, on dépense bon, les décisions du deuxième étage, mais au moins, on joue avec les mêmes cartes quand la partie commence. Et c'est ce que je déplore un peu. Le succès de la NFL vient du fait que, oui, il y a une bonne part de ça, Marc. Tu sais, les poules de football vont être extrêmement populaires. Pourquoi? Parce que quand tu paries sur un match, il y a un niveau d'incertitude qui est plus grand que dans n'importe quel autre sport en Amérique du Nord. C'est ce qui a fait le succès de la NFL. Le baseball devrait peut-être s'en inspirer, même si, aux yeux de plusieurs, on vient peut-être de sortir de l'essence de ce qu'est le baseball et peut-être même du rêve américain, là, si on va un peu plus loin. Mais il faudrait peut-être penser au-delà et regarder comment la NFL a fait son succès, Marc.
Oui, écoute, puis il n'y a rien de mal à regarder ou à imiter ou copier un système qui fonctionne bien. Écoute, je ne sais pas, Alain, où on s'en va avec ça, mais je suis pas mal convaincu qu'avec la situation actuelle, et s'il y a saison à huis clos, et s'il y a saison l'année prochaine, tu comprendras que les choses vont changer. Ça ne changera pas du jour au lendemain, mais je pense qu'éventuellement, on va avoir des changements qu'on va considérer comme majeurs, là, autant dans le sport professionnel, mais au baseball davantage.
La situation actuelle fait en sorte, Marc, que là, on va jouer, bon, dans les scénarios optimistes d'une demi-saison, sauf que ça, c'est arrivé en 94, c'est arrivé en 81, et quand tu regardes l'ensemble de la saison et tu regardes les joueurs, dans ces saisons-là, Marc, et c'est toi qui m'as amené ce sujet-là avant qu'on commence, il y a des joueurs dont la carrière va prendre fin en raison des demi-saisons. Et comme je l'ai mentionné, faites vos recherches. En 81, c'est arrivé. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vu leur carrière prendre fin lors de la grève demi-saison. C'était la même chose en 94. En fait, ça a été pire en 94. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a des joueurs qui arrivent à la fin trentaine, début quarantaine, et là, n'auront peut-être pas autant de temps pour se préparer, un temps dont ils ont davantage besoin. Est-ce qu'on va pas participer, mais est-ce qu'on va assister à un passage de pouvoir entre certains vétérans et la nouvelle génération? Moi, j'ai comme l'impression qu'on se dirige vers une autre période dans ce sens-là.
J'ai aussi cette impression-là, Alain, parce que, bon, est-ce que c'est bon pour un joueur de 38-39 ans de rater une saison complète et de tenter de revenir un an plus tard, ou c'est pas bon? Tu sais, physiquement, est-ce qu'on se repose ou au contraire, nos réflexes seront plus aussi aiguisés? Écoute, j'ai plus tendance à me dire, ben, tu sais, un gars de 39 ans, 40 ans, je pense à des Nelson Cruz, des Adam Wainwright, des gars qui, leur contrat va être terminé parce qu'on sait que ton statut de 2019 est transporté en 2020. Alors là, tu deviens joueur autonome, tu as 39, 40 ans, tu n'as pas joué pendant un an. J'ai comme l'impression qu'on pourrait voir, on pourrait assister à ça. T'sais, un gars comme Russell Martin, qui n'avait pas signé non plus aucun entraînement, mais qui était en Floride, qui était en bonne condition physique, est-ce que si on ne joue pas pendant une saison, est-ce que ça va lui tenter de revenir? Il y a beaucoup de questions, mais j'ai tendance à penser, bien évidemment, là, tu vas me dire, il y a beaucoup d'argent sur la table, peut-être. Est-ce que Nelson Cruz vaut encore quelques millions de dollars pour une équipe? Il y a des risques à prendre là-dedans, mais ça reste que j'ai l'impression qu'on pourrait voir un certain nombre de joueurs qui ont fait quand même de belles carrières, donc des revenus importants, pourraient annoncer leur retraite. Là, même si on annonce qu'une demi-saison, on pourrait peut-être voir certains joueurs dire « Ben écoutez-moi, c'est bien beau tout ça, mais j'irai pas jouer à huit lots dans ce contexte-là. » Donc, ça se peut, hein, qu'on en voit pas mal.
Oui, et c'était le cas, comme je le mentionnais, dans les deux autres cas auxquels on faisait référence, 81 et 94, il y a eu plusieurs joueurs, plusieurs vétérans qui ont été mis sur la touche au profit de certains jeunes. Marc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a toutes sortes de nouvelles qui sont sorties. Il y en a une qui a attiré mon attention, puis j'aimerais te parler de ça, toi qui as joué quand même 6 ans professionnel, tu as côtoyé pas mal de joueurs, certains avec un potentiel qui n'ont pas atteint les majeurs, d'autres qui ont atteint les majeurs, bon, malgré un talent mitigé, mais peut-être avec une volonté. Bref, tu as côtoyé toutes sortes de personnalités. Il y a un texte qui m'a frappé, c'est le rapport sur le décès de Roy Halladay. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est le fait qu'il avait développé une accoutumance à certains médicaments, des antidépresseurs. Bon, est-ce que c'est à la suite de sa carrière? Ça, c'est pas clair. Il y avait peut-être des problèmes conjugaux. Néanmoins, on est dans une période, Marc, où on demande aux gens de faire attention de toutes sortes de moyens. attention aussi à notre santé mentale. Peut-être qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. Dans le monde du sport professionnel, Marc, c'est une jungle. Tu le sais, Marc, tu l'as vécu. Tu as été malheureusement victime de certaines décisions dangereuses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle. Je pense à ta deuxième année où malheureusement, tu n'as pas été dans le dehors parce qu'on avait acquis des voltigeurs, ce qui était contre nature un peu dangereux, qui ont payé pour d'ailleurs quelques années plus tard. Le niveau d'anxiété quand tu es joueur professionnel, Marc, est-ce que c'est quelque chose que, j'imagine, ça dépend de la personnalité, mais maintenant, avec le recul que tu vois, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater quand tu jouais comme joueur?
Bien, vous savez, le baseball, je trouve, représente beaucoup la vie de tous les jours. Mais tu sais, c'est pas
Oui.
parce que tu es un athlète professionnel que tu es différent de monsieur, madame, tout le monde qui va travailler 9 à 5 au bureau, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en avait beaucoup des joueurs qui avaient des problèmes d'anxiété. Donc, mais vous comprendrez que, bon, le baseball est un sport pratiqué par beaucoup plus d'hommes. Là, aujourd'hui, c'est le fun d'avoir des filles, mais vous comprendrez qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de gars. Ben, si tu commences à te plaindre parce que tu te sens pas bien, parce que tu n'as pas confiance en toi, tu t'imagines un peu, Alain, comment tu vas te faire traiter. Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas, mais c'était bel et bien réel. Est-ce que les gars se cachaient derrière ça? Absolument. Puis, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement des moyens ou des médicaments connus qui nous. Ben, il y en avait, mais je veux dire. Encore une fois, le joueur n'allait pas de l'avant, aller voir le soigneur ou un responsable de l'organisation. Donc, c'est un problème. Tu sais, on le voit aujourd'hui, en 2020, là, même avant les problèmes que l'on vit actuellement, c'est un problème de société là, depuis une bonne dizaine d'années. Et le baseball ne faisait pas exception. Donc, moi, d'entendre ce rapport-là, en fait, de lire le rapport de Roy Halladay, malheureusement, ben, je ne suis pas surpris de ça. Bon, évidemment, il y en a qui, ça va beaucoup plus loin que d'autres, mais vous savez, un joueur de baseball qui passe 10, 12 années de sa vie, il est entouré d'un paquet de monde, il est coaché, entre guillemets. Tu sais, un joueur de position, tu as un coach de frappeur, tu as un gérant, tu as le coach au premier, tu as le coach au troisième, tu as le coach des voltigeurs, tu as le coach des voleurs de but, tu as un paquet de coachs. Rappelle-toi ce qu'on appelle les roving instructors, là, ceux qui
Ouais.
viennent de temps en temps te voir. Puis là, du jour au lendemain, tu prends ta retraite. Puis là, tu te retrouves dans une vie normale où il n'y a plus personne qui te guide vraiment. Il y a un paquet de choses. Fait que des fois, la transformation est. Puis ça se fait à un jeune âge. On parle d'un gars de 35, 40 ans qui a toute la vie devant lui. Fait que des fois, ça peut devenir difficile. Puis ça, j'ajoute même pas le fait que si tu joues dans un marché qui est important, puis tu dois performer, tu sais, les gens sont. La critique est facile aujourd'hui. Hein? Un joueur va être 0 en 10, non, il est bien pas bon, il est dans un slump, qu'est-ce qu'il fait? Mais ce gars-là, il vit des choses, il veut essayer de s'en sortir, mais là, il lit les journaux comme tout le monde ou il va sur Internet. Fait que c'est présent, c'est énormément présent dans le monde du sport. Et j'espère que le cas de Roy Halladay, Alain, va permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Les organisations sont conscientes de ces choses-là. C'est un aspect qu'on a ajouté là, au fil peut-être des 3, 4, 5 dernières années. Mais je pense qu'il va falloir en faire un petit peu plus pour s'assurer que les joueurs, comme la population en général, soient aux aguets de ce genre de situation.
Qu'on soit plus conscientisé vis-à-vis ce débat-là. Le plus récent, écoute, Marc, j'ai fouillé un petit peu pour regarder s'il y avait des cas. Matt Carpenter, c'est celui qui m'est venu en tête, tu te rappelles, avec les Cards de
Ouais,
Saint-Louis.
ah
C'en
ouais,
est un qui a dû
ouais.
manquer d'ailleurs plusieurs semaines, il y a quelques années, avant de revenir. Je me demande si, justement, ces conditions-là ne seraient pas la cause du syndrome de Steve Blass. Tu sais, on en a eu un au camp d'entraînement avec Andrew Miller. Andrew Miller
Ouais.
qui avait perdu, en fait, tous ses repères. Et je me demande si le fait, effectivement, la pression de vouloir performer, de vouloir tout faire à tout prix, fait pas en sorte qu'à un moment donné, on perd carrément nos moyens.
Ouais, puis j'ajouterais, Alain, c'est que lorsque tu atteins des niveaux où tu deviens un joueur très bon, exemple, un gars comme Miller, un excellent releveur gaucher qui a une
Oui.
réputation, puis là, du jour au lendemain, tu n'es plus capable de retirer personne. Écoute, c'est pas juste l'orgueil qui en prend un coup, là. Alors, c'est pour ça que, tu sais, le niveau de jeu est tellement élevé que la journée où ça commence à ralentir, c'est pas tous les joueurs qui sont capables d'accepter ça, d'accepter qu'à 32, puis 33, puis 34 ans, suis plus capable de suivre. Voyons, ça n'a pas de bon sens, comment ça? Fait que, tu sais, on peut tomber facilement dans des problèmes mentaux comme ça. Et puis, donc, c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Ben, pas surpris. Tu sais, Roy Halladay était tellement une bonne personne, un bon joueur, ça venait un bon père de famille. C'est extrêmement triste ce qui est arrivé. Mais malheureusement, je ne suis pas surpris de voir que la cause derrière ça. Et j'espère, encore une fois, comme j'ai dit, qu'on va être un peu plus conscient de la situation là, chez les équipes, les différentes équipes du baseball.
Marc, je me souviens qu'on avait parlé lors de webcast à un moment donné. Je t'avais posé la question sur un joueur de l'organisation des Expos que tu avais côtoyé qui aurait pu aller plus haut. Je nommerai pas le nom là, pour pas le mettre sur la table, mais je pense que tu te rappelles du nom. C'est un grand joueur de premier but avec qui tu as joué. Et je me
Oui.
souviens dans une conversation hors d'onde, tu m'avais dit ce gars-là avait tendance à s'apitoyer sur son sort un peu. Et sans nommer le nom, j'aimerais ça que tu reviennes un peu sur ce que tu avais constaté avec ce gars-là qui avait connu une très bonne saison 2A. La grève l'avait nu parce qu'il venait d'avoir sa meilleure saison. Il aurait probablement été rappelé cette saison-là et on ne l'a plus revu par la suite. Est-ce que c'est un des exemples que
Ouais.
tu as côtoyé d'un gars qui pouvait peut-être souffrir d'anxiété, ça?
Ben absolument. Écoute,
Oui.
c'est un joueur. Ouais, absolument. C'est un joueur. Encore une fois, lorsque tu te mets tellement de pression, tu sais, au baseball, là, bon, j'apprends rien à personne, mais tu échoues comme frappeur 7 fois sur 10, puis tu es
Ouais.
bon. Tu frappes 300. Mais les 7 autres fois que tu retournes à l'abri, parce que tu as été retiré, parce que le lanceur s'appelle Pedro Martinez ou John Smoltz ou Justin Verlander. Souvent, ces gars-là ne donnaient pas le crédit, se disaient, j'aurais dû le frapper. Mais là, c'est 10 présences, puis 20, puis là, vas-y, sur une saison complète de 500-600 présences au bâton. Hey, c'est de la frustration là, que tu accumules là, les 7 fois
Ouais.
sur 10 que tu es retiré. Ou si tu commets une erreur en 30 matchs, ben, tu vas te rappeler de cette erreur-là. Puis tu... Alors, ce joueur-là se mettait énormément de pression, beaucoup, beaucoup de talent, puis autant lorsque ça allait bien que, écoute, une confiance dans le tapis, comme on
Ouais.
dit, mais lorsque ça fonctionnait moins bien, c'était difficile. Donc, c'est pas facile de gérer tout ça,
Ouais.
et malheureusement, mais ça fait partie du sport.
Marc, dernière chose, on va parler sur le plan un peu plus local. Tu es impliqué avec Baseball Québec, ça, on le sait. On est en train de préparer des trucs. Si jamais, à un moment donné, les terrains de baseball devraient ouvrir, on va jouer, même si c'est juste un mois au mois d'août, on va faire ce qu'on peut. On est très proactif. Je ne sais pas si tu es dans le secret des dieux, j'imagine que tu es un peu impliqué dans tout ce qui se fait là-dedans, là. Mais le baseball, en tout cas, ne reste pas assis sur ses lauriers. On tente de préparer ce qui pourrait se faire, là, advenant un mini déconfinement.
Oh oui, absolument. Puis moi ce que j'aime du sport amateur actuellement, ben, non seulement c'est Baseball Québec, c'est Soccer Québec, c'est Hockey Québec, tout le monde, je vous dirais en ce moment, travaille de pair, chose qui ne s'était pas vraiment fait beaucoup au cours des dernières années, en fait, pratiquement jamais, là. Alors, de voir une espèce de synergie se créer, moi, j'aime ça parce que vous savez, le sport, la façon que le sport amateur s'est bâti, puis je vais même ajouter le sport scolaire, c'est tout le monde tire la couverte de son bord. Hein, tu es un bon joueur de hockey, on va aller te chercher. Même si tu es bon au baseball, non. À l'inverse, tu es bon au baseball, tu es bon au hockey, mais le baseball tire de son bord. À un moment donné, il va falloir développer des athlètes. Puis penser, lorsqu'on prend une décision, c'est qu'est-ce qui est bon pour le jeune, pas qu'est-ce qui est bon pour mon association ou mon sport. Qu'est-ce qui est bon pour le jeune? Si le jeune il est bon dans trois sports, on est-tu capable de l'aider? Puis que rendu à 15-16 ans, ben là, il pourra peut-être choisir un sport parce que là, il excelle. Tu comprends où je veux en venir? Alors, j'aime l'ouverture des différents directeurs généraux de ces sports-là. Puis, évidemment, Baseball Québec poursuit dans ces scénarios. Évidemment, là, il peut y avoir des changements, comme par exemple l'arbitre, au lieu de se tenir derrière le marbre, pour être derrière le monticule, donc derrière le lanceur. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais là, on respecte les distances entre personnes. Les balles, par exemple, vont être fournies par les. En fait, chaque équipe va avoir ses propres balles lorsqu'ils vont être en défense, par exemple, pour que ce soit la même équipe qui touche la balle. Puis qu'on... Alors, il y a un paquet de choses. J'aime la créativité. J'espère pour tout le monde, les amateurs de sport, qu'on puisse aller sur les terrains, même si c'est juste au mois d'août. Puis on sait que le mois de septembre est magnifique maintenant au Québec. Alors, on pourrait avoir un mois ou deux de baseball ou de soccer ou peu importe les sports d'été. Moi, je pense que ça serait important, ça serait sain. Mais il faut le faire dans un contexte où c'est sécuritaire.
Oui, chapeau à Baseball Québec, là, que je pense qu'il a pris un peu les devants dans ce
Ouais.
dossier-là. Et et qu'on ait une meilleure coopération entre sports, Marc, je pense que ce ne serait que bénéfique pour les jeunes, parce que c'est à eux qu'il faut penser en premier, là.
Voilà, c'est bien
Ouais.
dit.
Bon, Marc, ça complète ce webcast pour cette semaine. J'espère qu'on va se revoir sous peu. Ça voudra dire qu'on aura des nouvelles probablement à venir pour le baseball. Comme on vous dit, ça vient au compte-gouttes ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre. On pourrait se préparer pour le début du mois de juillet, mais ça reste à confirmer, évidemment. Soyez aux aguets. Quant à nous, ben, évidemment, on sera de retour d'ici là. On aura des choses à vous présenter. Entre-temps, ben, je vous souhaite tout simplement de passer du bon temps avec ceux qui vous accompagnent pendant cette période qui n'est pas facile et soyez prudents, suivez les conseils. Merci Marc d'avoir été là.
Salut!
Bye bye. Prenez soin de vous tout le monde.